19 novembre, rendez-vous sur actiondon.fsju.org.
actiondon.fsju.org.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J. Il est 15h, c'est l'heure du journal avec Charlène Villemer. Bonjour Charlène.
Bonjour Annabelle, bonjour à tous. On démarre ce journal avec l'actualité dans le nord d'Israël. Un drone du Hezbollah a frappé une école maternelle près de Raïfa ce matin. Les enfants sont indemnes et ce malgré l'absence de sirènes à Necher. L'incident est terminé, pas de blessés. Les enfants se trouvaient bien à l'abri malgré l'absence d'alerte. Pascal Zanschein.
D'abord, un drone tiré du Liban s'est abattu sans exploser il y a une heure dans le périmètre du kibbutz Gesher Aziv en Haute-Galilée. Les artificiers sont sur place, il n'y a pas eu de blessés. À la mi-journée, encore des tirs de roquettes contre la Haute-Galilée et la région de Haïfa. Toujours dans la région de Haïfa, à Necher, c'est un drone suicide qui a donc explosé ce matin dans la cour d'un jardin d'enfants. Les 6 petits élèves sont indemnes grâce au sang-froid de leurs éducatrices qui les avaient fait entrer dans l'abri quelques secondes seulement avant l'impact.
Pascal Zanschein, notre correspondante en Israël. La situation dans le nord d'Israël demeure extrêmement tendue. La journée d'hier a été l'une des plus denses. Sur le plan des tirs, entre 170 et 200 roquettes ont été tirées à partir du Liban en direction essentiellement de la baie de Haïfa. Dans la bande de Gaza, on a appris plus tôt ce matin la mort de 4 soldats de Tsahal, tués hier dans le nord de la bande de Gaza. Orkatz, 20 ans, Nave Yair Assouline, 21 ans, Gary Zolat, 21 ans, Ophir Elahou, 20 ans. Les soldats faisaient partie de la brigade Kfir. Selon une première enquête de l'armée israélienne, les soldats ont été touchés par un missile anti-char tiré sur un bâtiment à l'extrême nord de la bande de Gaza. Hier, un autre soldat a été tué dans un incident de tir anti-char à Jabalia. Il s'agit du major Itamar Levin Friedman. Il avait 34 ans. Actualité à l'international en Thaïlande face à la menace terroriste. Les Israéliens sont invités à la vigilance. Le pays a été placé en état d'alerte après une attaque contre les Israéliens sur l'île touristique de Koh Phangan, notamment pour la célèbre Full Moon Party qui se tiendra ce vendredi sur l'île, très plébiscitée par les jeunes Israéliens. En réponse, le bureau du Premier ministre israélien, par l'intermédiaire du Mossad et du Bureau de la Sécurité Nationale, a émis une mise en garde concernant des menaces potentielles visant les Israéliens. Précisant dans un communiqué également à midi, au cours des derniers mois, les services de sécurité israéliens en coopération avec leurs homologues thaïlandais ont déjoué plusieurs incidents dans le pays. Aux États-Unis, après une victoire écrasante de Donald Trump, il lance les premiers chantiers de ce second mandat et au sommet de sa liste, la nomination des principales figures de la prochaine administration. Le 47e président a prévu de nommer des proches à des postes clés, notamment ceux qui tiennent une ligne dure face à la Chine, à l'image de Marco Rubio, l'influent sénateur de Floride. Il est pressenti comme prochain chef de la diplomatie américaine. En France, l'ambassadeur d'Israël, Joshua Zarqa, est convoqué aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Cela fait suite à l'arrestation de 2 gendarmes français jeudi dernier à Jérusalem. Ils étaient chargés de la protection du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et ont été arrêtés par la police israélienne, entrée armée et sans autorisation dans l'Eléona, un site historique de pèlerinage géré par la France à l'est de Jérusalem. Si personne ne conteste ce site, c'est le statut des bâtiments qui pose difficulté. Éric Danon, ancien ambassadeur de France en Israël, sur Radio J.
Vous avez un statut qui est mal défini juridiquement, mais en fait consacré par la pratique. Après la guerre des Six Jours, en 67, et la prise de Jérusalem-Est par les Israéliens ont reconnu un statut ad hoc pour les 3 emprises situées dans cette partie de la ville. Ça se traduit aujourd'hui par des allègements fiscaux ou encore l'autorisation de passeports consulaires à 1 ou 2 responsables des sites français. Mais tout cela, il faut bien le reconnaître, est fragile et incertain parce que mal formalisé.
Éric Danon ce matin sur Radio J. Emmanuel Macron, lui, s'est entretenu avec le chef de l'OTAN, Marc Rutte. Le président a tenu une conférence de presse un peu plus tôt après une entrevue à l'Élysée. Emmanuel Macron et le chef de l'OTAN, Marc Rutte, ont rappelé les objectifs de la France et de l'OTAN. En premier lieu, le soutien à l'Ukraine. Il a également réaffirmé sa volonté de construire une Europe forte.
L'Europe a trop longtemps évité de porter le fardeau de sa propre sécurité et considéré qu'on pouvait, sans terme, en quelque sorte, payer, recevoir les dividendes de la paix. Ça n'a jamais été le cas de la France. Je me réjouis que tous aujourd'hui soyons déterminés à dépenser plus. Les deux lois de programmation militaire que nous sommes en train de terminer auront doublé le budget des armées. Mais au-delà de cela, c'est cet agenda d'autonomie stratégique européenne qui permet d'avoir plus d'argent, de bâtir des capacités, une autonomie des Européens et une capacité à coopérer au sein de l'Alliance avec nos alliés non européens.
Emmanuel Macron, ce midi, dans une conférence de presse. Il sera bien présent au match de Ligue des Nations de football entre Israël et la France au Stade de France ce jeudi. Michel Barnier et Nicolas Sarkozy seront également dans les tribunes.
Merci Charlène, on vous retrouve à 15h30 pour le Flash Info. En attendant, restez avec nous, c'est bientôt l'heure du Annabelle Show, ça commence dans quelques instants. A tout de suite sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour, c'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J.
La loge Ben Gourion du Bnei Brit vous invite au 27e Salon des Écrivains, dimanche 17 novembre, de 14h à 18h30, à la mairie du 16e arrondissement. Littérature, histoire, art, politique, philosophie et un espace jeunesse. Plus de 80 auteurs présents, parmi lesquels Philippe Val, Valérie Abécassis ou encore Daniel Siboni. À 18h30, les impacts du 7 octobre en France, vus par deux philosophes. Le 27e Salon des Écrivains, c'est dimanche 17 novembre à partir de 14h, à la mairie du 16e. Entrée libre.
Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais.
Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr.
Tzedaka.fr.
La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir.
Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
Radio J. Bonjour, c'est Philippe Lelouch. Le mardi 12 novembre 2024 à 20h au Palais des Glaces, venez rire avec Radio J qui lance son comédie club Radio J sur scène. Ce sera le mardi 12 novembre 2024 à 20h. Je vous embrasse, à très vite.
Radio J Comédie Club au Palais des Glaces avec le concours du Maguen David Adom, mda-france.org.
MDA.
MDA France.
Association au service de la vie.
Radio J, 15h, 16h, Annabelle Show.
Bonjour à tous, ici Annabelle Show, vous êtes bien sur Radio J, bienvenue dans votre rendez-vous de l'après-midi, le Late Show avec mon invité exceptionnel que vous allez découvrir dans quelques instants. Si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à réserver vos places pour le Radio J Comedy Club qui a lieu ce soir au Palais des Glaces. J'aurai le plaisir de vous retrouver avec tous les chroniqueurs humoristes de cette station pour partager la scène et aussi avec notre marraine Sandrine Saroche et notre parrain Philippe Lelouch. Ça va être une grande soirée, donc n'hésitez pas, il y a encore quelques places sur le site de radioj.fr et avec le code de réduction RADIOJ10 tout en majuscule, et bien vous avez 10 € de moins sur vos places. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission sur la nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. Abonnez-vous. Nous sommes mardi 12 novembre donc 2024. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la mauvaise. La SNCF annonce une grève des transports pour les fêtes de Noël. Bon, en fait, c'est ça tous les ans, hein. Il doit y avoir une explication. Un des délégués syndicaux déteste sa famille ou il trouve cette bonne excuse pour ne pas aller les voir. Ou alors un des délégués n'a pas de famille et est jaloux de ceux qui font la fête, donc a décidé de leur pourrir tous les Noëls. En plus, Hanouka tombe entre Noël et le jour de l'an cette année. Ça tombe bien. La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a décidé d'offrir une séance de psy gratuite à tous les Français à partir du 1er janvier 2025. Il va y avoir une d'attente de dingue. Bah, c'est sûr qu'après leur fête ratée, ils en auront bien besoin. Ça tombe bien, on va parler de fêtes qui partent en vrille dans cette émission, mais aussi d'enthousiasme, humour, chansons, cinéma et transmission. Aussi à l'aise en concert que devant des milliers de personnes à travers le monde, que sur un plateau au moment de dire action, une créativité à toute épreuve, une personne aux multiples personnages, une palette aux multiples couleurs. Il aime jouer comme un acteur mais aussi comme un grand enfant. Le talent et l'envie, il baigne dedans depuis tout petit avec l'humour, la passion et le culot en héritage. Il pourrait être une expo à lui tout seul, tellement il multiplie les formes de création et d'expression. J'ai le plaisir d'accueillir, appelez-le comme vous voulez, le comédien Esteban ou bien le chanteur David Boring.
Wow, c'est moi, bravo, merci beaucoup pour la presse. Ah, bon. La presse, c'est la présentation.
Merci pour cette traduction. Bon, alors, on a Esteban, le comédien.
Je me suis hyper baissé, mais j'aime bien. Oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
Pas de souci. David Boring, des Naive New Beaters.
Oui, ça c'est vrai.
Michael Clair aussi, comédien.
Ah non, lui, c'est non, juste, il paye les impôts.
Ah d'accord.
Enfin, quand il y en a a à payer, bien sûr.
Bon, bah, alors, on reste avec Esteban David Boring.
Ouais, Esteban et David Boring, ils sont sympas.
Effectivement. Bon,
enfin, au final, c'est quand même la même personne.
Effectivement. Et c'est vous que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Salut à tous.
Salut à tous. Il est très coloré. Voilà, il a un super bon burst. Regardez le live parce que vraiment, ça vaut le détour. Comment ça va en ce mois qui s'annonce bien chargé en émotions? Il y a plein de nouveautés qui arrivent.
Oui, c'est vrai. Il y a un peu d'actu. Ça fait plaisir les mois d'actu.
Effectivement. Donc, vous avez déjà demain, le 13 novembre, une sortie d'un nouveau clip.
Ah, c'est vrai. J'avais même oublié cette actu. Oui, carrément. Qui est notre titre Such a Waste de notre nouvel album qui s'appelle Footroom.
C'est comme ça qu'on dit, Footroom.
Bah, moi, je dis Footroom. C'est vrai qu'on s'est un peu embrouillé. Parfois, c'est Futurum. Mais je me dis, si tu remplaces les U par des OU qui sont à la base des V, comme il y a écrit sur la pochette. Enfin, bon, c'est un peu compliqué.
Pour ceux qui ne visualisent pas. C'est en mode le César Palace, un peu. On vous voit tel des sculptures gréco-romaines.
Un petit peu ça, l'influence, une sorte de. Pour illustrer un peu le péplum moderne avec du sentiment un petit peu chaloupé aussi. C'est comme ça qu'on l'a décrit, l'album. Et la pochette est un peu à cette effigie. Donc, comme tout gréco-latin qui se respecte, on remplace les U par des V. Mais moi, à la base, c'était une idée, j'étais pas trop pour. C'est mes deux potes qui ont dit ça. Et j'ai dit, non, mais franchement, personne ne va réussir à lire. Tout le monde va dire feu,
Les gens, ils ont l'habitude avec Astérix, peut-être, non?
Oui, et c'est ce qu'ils m'ont répondu. C'est ce qu'ils ont eu le culot de me répondre. Et en fait, parfois, il y a des journalistes qui me disent, comment on prononce là? On n'y comprend rien. Et j'ai dit, oui, mais c'est Futurum.
Voilà, c'est Futurum.
Bon, voilà.
Très bien. Donc, comprenez-le, chers auditeurs, c'est Futurum.
Comprend qui veut.
Voilà, exactement. Donc on écoute un petit extrait
super.
De ce clip qui sort demain en exclusivité. On est sur de la pop rappée au sentiment chaloupé. C'est ça votre credo?
Oui, c'est vrai. C'est un petit peu la façon un peu prétentieuse qu'on a eu de définir notre musique.
Et donc, dans ce groupe...
Ou alors du rock.
Du rap,
c'est pas mal, non?
Ah, il y a un truc à déposer.
Je crois que. Mais on l'a pas assez exploité. Là, je le remets au goût du jour, mais c'est vrai qu'on a dit pop chaloupé, nana.
Ça combinerait bien les.
Et je viens de réaliser, je me dis, mais pourquoi on n'a pas insisté sur ce terme que je trouve assez cool, quoi, du rap? Ouais, on fait du rap.
Et encore une autre décision à prendre avec.
Ouais, et je dirais même qu'on est les inventeurs du rap. On pourra pousser carrément.
Le 12 novembre, 2024, les Naive New Beaters, oui, puisqu'il faut le préciser quand même. Donc, Futurum des Naive New Beaters, avec vos deux compères Eurobeatics.
Qu'on peut nommer et Martin Luther B.B. King, bien sûr. À nos côtés. Ah non, ils sont pas là.
Ils sont pas là, mais ils sont vraiment avec nous.
Oui, ils sont là dans le cœur, bien sûr.
Donc effectivement, cette invention du rap, on va revenir évidemment sur cette histoire qui vous lie tous les trois.
S'il vous plaît.
Et on écoute un autre extrait.
Parce que
c'est un album qui permet de bouger, de se mettre de bonne humeur.
De voyager en restant ainsi.
Exactement. Dancing, donc. Qui est déjà en ligne, celui-là, de clip.
Oui, c'est vrai. C'est le premier titre qu'on a sorti de l'album.
Allez le voir, parce que c'est un bon gros délire.
Et une sorte de clip pour donner envie aux gens. Je ne sais pas si ça va vraiment leur donner envie. C'est une sorte de clip en forme de chasse à la mouche.
Voilà.
Voilà.
C'est une chasse à la mouche qui assiste à une soirée qui a un peu vrillé.
Voilà, c'est ça.
Effectivement. Donc, avec cet album, les clips que vous avez déjà sortis, il y a un petit côté MoMA, un petit côté musée d'art contemporain, je dirais. C'est recherché, cette envie comme ça de créer un peu des ovnis dans les clips que vous faites.
Mais c'est vrai que les clips, ça a toujours été important pour nous de justement pouvoir proposer une sorte d'univers visuel aux morceaux. Et dès le début du groupe, on s'est dit, quand même, il y a un truc de s'investir aussi créativement dans les clips. clips, que ce soit un vrai truc et une vraie proposition artistique aussi, au même titre que la musique. Et je sais pas, moi c'est vrai que j'écoute encore la musique vachement sur YouTube, et pour moi le clip, je sais pas, j'ai grandi avec, et c'est vraiment me dire ah tiens, qu'est-ce qu'il me propose l'artiste, est-ce qu'il a l'air cool, est-ce qu'il n'a pas l'air cool, est-ce qu'il fait des clips un peu chelous ou un peu normaux.
C'est vrai que ça nous permet tout de suite de plonger dans votre délire.
Ouais, je trouve que ça fait vraiment partie de, enfin moi, de l'identité, du fait que j'adhère ou pas un groupe ou à un artiste, c'est son univers musical. Je sais pas, j'adore Queen, et Queen, ils ont toujours eu des clips
vous parlez à la bonne personne.
Complètement fous et puis hyper incarnés, quoi. Et bah, je trouvais ça génial, quoi. Et je crois que ça a participé au fait que ce soit un de mes groupes préfs.
Et effectivement, dans Queen, non seulement il y a cet univers esthétique, je pense notamment à la chanson où Freddie Mercury est habillé en rose.
Ouais, bon, c'est vrai, voilà, que c'est celui-là. Ouais.
Non, mais c'est vrai que ça raconte des choses. Et puis en plus, il y a ce mélange aussi des musiques, des styles musicaux, que, comme vous venez de le dire, avec votre rock, vous cherchez, il y avait aussi ça dans.
Oui, c'est vrai que.
Eux, c'était du. Opéra rock.
De l'opéra, il y avait le rock, il y a eu vachement de disco dans leur musique, donc ouais, j'aime parce que bon, déjà à la base on est trois, donc il faut tous les trois qu'on satisfasse un peu nos goûts musicaux.
Effectivement, vous n'avez pas exactement
respectifs.
Les mêmes goûts chacun, vous venez de chacun d'univers différents.
Donc
vous
êtes on s'embrouille.
Donc on a Eurobélix, le. Alors c'est la machine, l'homme machine, c'est
ça ? Machine avec du cœur, bien sûr.
Le beatmaker.
Voilà.
Voilà.
Et on a Martin Luther B.B. King, qui est le guitar héros pasteurisé un petit peu, et moi-même David Boring, chanteur crooner
américain,
bien sûr, de surcroît.
Et donc on aura le plaisir de retrouver cet univers rock le 26 novembre à l'Olympia, où justement vous allez présenter. Bien tous ces hits de Futurum, et à quoi on doit s'attendre? Il y aura des petites surprises, vous avez aussi peut-être des gens qui vous rejoignent, ou qu'est-ce qu'on aura visuellement? Du coup, un concert, c'est aussi l'occasion peut-être de d'habiller tout ça de manière live.
Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux dire? Déjà, ça va être le plus long concert qu'on ait jamais fait. Alors, je sais pas si ça donne vraiment envie aux gens, mais en tout cas, on s'est dit, ouais, vas-y,
ça
là.
Ça dépend de la durée des précédents.
Ouais, là, on va charger le concert, là. vu qu'on a quand même 5 albums à notre actif, on se dit, bon, si tu fais un concert d'une heure, ça se fait pas trop. Les gens, ils vont en vouloir pour leur pognon. Donc, c'est ce qu'on va essayer de donner. Bon, voilà, on a toujours essayé un peu de faire un peu le show à l'américaine, mais avec nos propres moyens, quoi.
Avec donc, le budget à la française.
Ouais, voilà. Donc, on vous promet un show à l'américaine un peu cheap.
Vous venez un peu de cette école-là, d'ailleurs. On va bien sûr revenir sur cet héritage que vous avez. Donc, je retiens cette phrase, le show à l'américaine avec le budget à la française. Donc, on vous retrouve également, alors, avec cette énorme actu, donc l'Olympia, le 26 novembre. Plus,
déjà, c'est
donc,
la classe.
Voilà,
déjà, rien que ça, on peut aller se coucher. Quoi,
effectivement.
Après.
Et vous l'aviez déjà fait en première partie, vous l'avez déjà fait également, vous.
Oui, voilà. Là, en fait, c'est la deuxième fois qu'on le fait juste en notre
juste
nom.
Vous, c'est ça.
Et la première fois qu'on a fait l'Olympia, on le faisait un peu. C'était une soirée où, je crois, on jouait avec La Femme, et il y avait aussi Pete Doherty qui n'était jamais venu, en fait.
Donc, ça vous a laissé le temps de faire ce que vous vouliez, j'imagine.
Ouais, bah en fait, on avait un pote qui s'habillait en Mickey, parce que c'était à l'époque où on avait sorti un clip qui s'appelle Shit Happens, que je conseille à tout le monde au visionnage.
Effectivement, ça fait un bon court-métrage aussi.
Ouais, voilà. Et où c'est Mickey Mouse
qui part
un petit peu en vrille. Mais du coup, lui, il voulait danser, et Bob, pendant tout le concert supposé de Pete Doherty, je crois qu'il a dansé pendant une heure devant les gens, ils en avaient vraiment marre. Ils attendaient vraiment Pete Doherty, et pas du tout Mickey Mouse qui danse tout seul sur scène.
C'est un
mais il a fait le show. Peut-être qu'on va le rappeler le 26 novembre à l'Olympia. Peut-être que Mickey Mouse, qui a foulé le sol de l'Olympia quand même une fois.
Il a l'habitude maintenant.
Oui, voilà, il a eu son moment de gloire. Alors on s'est dit, bon, peut-être qu'on va le réinviter.
Dans un moment un peu moins gênant.
Voilà, on essaie, on espère pour lui.
Alors du côté de la casquette du comédien cette fois-ci, donc de Esteban, on vous retrouve en ce moment sur Netflix dans le Nice Girls, le film de Noémie Saglio, où vous interprétez un Un flic un peu ripou, non?
Ouais, complètement ripou.
Complètement ripou, ouais, avec Delphine Baril.
Oui, voilà, on a un peu un duo de ripou, mais nul.
Ouais, ça, j'imagine, avec elle, l'esprit comique doit être bien être là, j'imagine. Et donc on vous retrouve dans Next Girl, mais c'est pas tout, puisque le 27 novembre, donc le lendemain.
On fait l'Olympia, on voilà. Se réveille, bam, sortie ciné.
On va au ciné dès la première séance avec, moi j'adore le titre, mais je vous laisse le dire vous.
Les boules de Noël.
Mais oui, ça veut tout dire. Ce titre, les boules de Noël, voilà. Bien sûr. Parce que t'as bien les boules de Noël, hein. C'est un peu ça le pitch.
C'est vrai.
Vous pouvez nous en parler un petit peu d'un film de Alexandra Leclerc, donc, qui sort.
Voilà, avec Cadmerade et Valérie Bonneto et Noémie Lvovsky aussi, Louise Massa,
Rosa
Bernstein, bien sûr. En fait, c'est une famille qui a une sorte de malédiction qui n'arrive jamais à fêter les 12 coups de minuit de Noël. Parce qu'on fête parfois les 12 coups de minuit de Noël. Et en fait, ça
merde à chaque fois.
Voilà, c'est ça. Je voulais pas dire le gros mot, mais
je me suis autorisée.
Oui, voilà.
Il y a un truc qui va pas. On est l'après-midi sur une radio.
Et Noël passé, il y a quand même les grands-parents qui ont pris feu à la suite d'une petite bataille de boules de neige. Donc il y a un peu les boules de se dire, est-ce qu'on fête Noël cette année ou pas?
Voilà, c'est en fait les galériens de Noël. Je pense que ça arrive à pas mal de gens. C'est vrai que c'est un moment... les fêtes qui suscitent beaucoup de tensions, de pression sociale,
ouais,
je dirais.
C'est vrai, genre...
Les retrouvailles en famille...
Ouais, quand t'es petit, il y a un peu un côté « Ah, c'est sympa, il y a des décos de Noël partout,
la
ville est un peu en lumière, tout ça. » Et puis, en fait, quand il faut acheter des cadeaux pour tout le monde, ça coûte cher, quoi.
C'est vrai.
C'est l'angoisse. Et lui, il va encore pas être content de ce que je lui file, tout ça.
Et puis, il y a ce côté retrouvaille de la famille qui s'est pas vu depuis des mois. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Alors, le boulot, ça va?
Obligé de s'inventer des lives.
Exactement. C'est ça. En tout cas, ça donne vraiment envie. On écoute un petit extrait de la bande-annonce.
D'abord, on ouvre mes cadeaux.
Papa, c'est une bougie.
Hein?
C'est exclusivement à
Noël. Que quoi?
Que ça se passe mal.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
À chaque fois avant minuit, docteur, il se passe quelque chose.
Si vous n'avez jamais été frappé par une vieille, eh bien ça va commencer ce soir.
Charlotte, elle est végétarienne.
Végane.
Et tu sais pas ce que tu rates, Charlotte, hein? C'est dans ta tête, tout ça. Ça n'existe pas, une malédiction.
Oui, papa, oui, maman, deux secondes. Oui.
Ce soir, personne ne quittera cette maison avant le dernier coup de minuit. 4 heures à tenir.
Qu'est-ce que c'est?
Effectivement, on entend bien le désespoir.
Ouais, il y a des gens qui crient. Hein. Je n'avais jamais écouté qu'en audio.
Oui, ça donne toujours autre chose quand on écoute les bandes annonces.
Parce qu'on se dit, waouh, il y a une sorte de mouvement de panique global.
Voilà, on dirait un peu le Titanic, mais version Noël.
Ouais,
quoi.
Voilà. Et alors, il y a un petit carillon de Noël au début, et puis ensuite, c'est waouh, waouh, waouh.
C'est ça. Donc, effectivement, c'est la comédie de fin d'année à aller voir. Ça change des téléfilms de Noël habituels, où on a Samantha qui retourne dans son village natal.
J'avoue que c'est un Noël, c'est une vision de Noël assez cruelle, je dirais. Ouais. Il a failli s'appeler Cruel Noël, Noël cruel.
Ah oui, ouais, ça aurait été pas mal aussi, mais c'est vrai que les boules de
j'aime
Noël.
Bien les
moi
boules
j'aime
de
bien.
Noël. Il y a un truc un peu chic.
voilà. Ça veut tout dire. Bon, alors c'est pas tout en termes d'actualité, parce que depuis quelques jours est sorti en exclusivité, parce que voilà, vous attendiez de faire ça depuis très longtemps.
Ouais, c'est vrai.
Le coffret DVD de Philippe Clerc, qui est donc votre papa, et dedans donc ce qui est un monument du cinéma, du patrimoine du cinéma français en termes de comédie et de films cultes et de cinéma burlesque, et donc on retrouve dans ce DVD 10 films cultes que vous avez réussi à à récupérer par plusieurs moyens parce que vous aviez envie de rendre hommage à votre père et que effectivement ces films qui ont été cultes et qui ont bercé pas mal de gens, on avait du mal à les retrouver, donc vous vouliez les remettre comme ça dans un DVD. C'était le rêve de votre père.
Mais c'est vrai qu'en fait déjà on trouve, je sais pas, parfois quelques vieilles versions tournées, filmées au caméscope sur un écran qui passait une vieille VHS. Enfin, moi, c'était un peu la jungle, le Far West. Et c'est vrai que moi, tous les ans, mon père, il me disait, ah, tiens, là, on va me préparer le coffret de DVD, ça va être une pyramide, ça va être une tour. Enfin, il s'imaginait un coffret de DVD complètement hallucinant, quoi. Et bon, il a jamais vu le jour, ce coffret DVD. Et en fait, quand j'ai récupéré un peu, ça, je me suis dit, je voulais pas voir les films disparaître parce que quand on renouvelle pas les droits, quand sachant que aucun des films était numérisé, ça disparaît assez rapidement, ça disparaît de la mémoire collective, c'était plus diffusé en télé. Donc il a fallu un petit peu renouveler les droits. Il y a des films que j'ai rachetés. Je suis devenu producteur des films parce que certains studios, ils voulaient pas renouveler les droits. Donc ils me disaient
comment ça se passe? Ils vous disent on veut pas renouveler les droits. Où est le film entre temps? Où c'est que vous retrouvez toutes ces images?
Ben en fait, eux, ils ont un peu du matériel vidéo de ces films, mais qui est par exemple des cassettes bêta, c'est VHS un peu améliorées. Mais du coup, on passe plus du tout ça, on les broadcast pas, on les diffuse pas à l'antenne, et du coup aussi pour numériser les films, limite ils font un calcul, ils disent ça coûte tant pour numériser, avec les passages vidéo ou télé, on fera jamais autant d'argent, donc en fait le film ça sert à rien qu'on le numérise, donc je suis là, mais qu'est-ce qu'on fait, on le laisse
dans l'oubli, quoi.
Donc voilà, il y a certains films que j'ai rachetés, qu'on a renumérisés ou recréé des images avec certains avec l'intelligence artificielle.
Ça c'est extraordinaire de réussir à faire ça.
C'est un peu bizarre parce
on vous a conseillé dans cette démarche, en fait, parce que j'imagine que tout seul c'est un peu compliqué.
Quelqu'un il m'a dit tu devrais essayer ça, et donc les premières version, en fait, je suis parti d'une sorte de de bêta, mais ça rendait un peu bizarre parce que parfois il y a des acteurs, ils avaient 6 doigts, j'étais là, mais non, c'est pas normal qu'il ait 6 doigts.
Je crois que
c'est assez rare. Il y a quand même 4 acteurs qui ont 6 doigts, non, c'est bizarre. Enfin bon, bref, j'exagère un peu, mais c'est vrai qu'il y avait des ce qu'on appelle un peu des aberrations, quoi, vidéo, et donc du coup, je dis pas qu'il est parfait le film, mais en même temps, en tout cas, on retrouve parfois une qualité assez hallucinante par rapport aux fichiers desquels je suis parti, quoi. Donc l'idée c'était vraiment d'essayer de pousser au max avec les moyens du bord, parce que je pouvais pas non plus m'offrir des numérisations de fou en partant des négatifs, tout ça, mais on a fait un super travail à la fois avec les différents studios qui avaient les droits de certains films, et
c'est vraiment un puzzle, quoi, ce que vous avez fait.
C'était en contactant plusieurs entités de production différentes, et on a réussi à faire à ressortir 10 films qui, je sais pas, ils ont pas été diffusés depuis près de 20 ans, quoi, c'est hallucinant.
Alors que c'est des classiques, et que maintenant, si vous donnez les titres, je vais en donner quelques-uns, Plus beau que moi tu meurs, tais-toi quand tu parles,
Par où t'es rentré, t'as pas vu sortir.
C'est vrai que c'est des classiques qui ont bercé les années de certains, avec justement Aldo Macchione notamment, Jerry Lewis.
Il y a Les Charlots dans La Grande Java, un film Jerry Lewis dans un film français, enfin il y a des trucs assez hallucinants, quoi.
C'est vrai que ça fait partie du patrimoine, et c'est fou que vous ayez eu besoin comme ça d'aller à la conquête du cinéma de votre père, quoi.
Mais il y a même des films, en fait, je pense à Rodriguez au Pays des Merguez, parfois il faut aller renégocier avec des héritiers de succession qui n'ont pas renouvelé les droits, donc il faut voir avec eux, enfin, ça fait plein de choses. Moi, c'était pas du tout mon métier, mais en même temps, il n'y avait pas grand monde qui voulait le faire, ce métier, donc avec l'aide de TF1, avec voilà des gens qui sont encore quand même un peu impliqués dans faire vivre le cinéma français, l'héritage, voilà, puis ils sont un peu cultes, même si je suis bien conscient qu'il y a pas énormément de gens qui ont encore des lecteurs DVD, mais pour moi c'était important.
Mais oui, parce que ça les au moins vous avez fait ce travail.
Mais oui, voilà, mon père il m'a tellement parlé de ce coffret DVD, là il existe, donc je suis hyper content.
C'est
et
un
je
peu
me
comme
dis,
les familles.
Il y a le coffret.
Effectivement, et c'est un peu comme les familles qui ont plein de vieux souvenirs, et en fait il y a toujours le grand-père qui garde ça dans une malle, et on revoit jamais les films filmés sur caméra à l'ancienne, et bien là vous avez fait ce travail, en plus c'est vraiment des films qui ont bercé l'enfance et la jeunesse de plein de gens. Donc,
et puis quand ils étaient diffusés en télé, ils faisaient des super audiences, et en fait il y a eu plein de problèmes de droits, de problèmes avec différentes personnes, producteurs ou quoi, et qui fait que ils n'étaient plus diffusés ces films. Mais,
donc en tout cas on peut retrouver, c'est sorti le 5 novembre, on peut retrouver ce coffret.
Voilà, et j'espère qu'ils seront ensuite diffusés
à l'antenne, sous les boules de Noël de toutes les familles ou les bougies Tranouka. Voilà. Le coffret donc Philippe Clerc avec 10 comédies à ne pas manquer, des clics et des claques, précurseurs de la vérité, si je mens, La Grande Java, Le Grand Fanfaron. Et par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir, mais tout de suite on se retrouve avec le journal de Charlène Villemer. Le flash.
15h, 16h. Le late show de l'après-midi.
Il est 15h30, c'est l'heure du flash avec Charlène Villemer. Bonjour Charlène.
Bonjour Annabelle, bonjour à tous. À la une de l'actualité, un soldat de Tsahal a été blessé par des Israéliens en Judée-Samarie. Les faits se sont produits suite à l'évacuation d'une zone considérée comme illégale par les autorités israéliennes. Selon une source militaire, le soldat a été touché à la tête par une bouteille en verre et emmené au centre médical Shaar Tzedek à Jérusalem pour y être soigné. Nous avons eu le miracle des miracles, c'est ce qu'a déclaré aux médias israéliens Sarah Yassour, enseignante dans l'école maternelle qui a été frappée près de Haïfa à Necher ce matin. L'école a été ciblée par un drone du Hezbollah. Aucune sirène n'a retenti dans la localité au moment des faits, mais le personnel a entendu une alerte lointaine et a placé les enfants dans l'abri. Aucun blessé n'est à recenser. Actualité internationale, la police néerlandaise met en garde contre de nouvelles émeutes potentielles à Amsterdam. 4 jours après les violences en marge du match entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv, la capitale néerlandaise a été le théâtre de nouvelles émeutes hier soir. Des slogans antisémites ont été entendus comme « juif cancer ». Un tramway a été incendié. 3 personnes ont été arrêtées. En France, Joshua Zarka, l'ambassadeur d'Israël en France, est convoqué aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères à Paris. Cela fait suite à l'incident diplomatique survenu jeudi dernier. L'arrestation de 2 gendarmes français par la police israélienne à Jérusalem. Ils étaient chargés de la protection du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. L'Europe a trop longtemps évité d'assumer sa propre sécurité. C'est ce qu'a affirmé Emmanuel Macron ce midi dans une conférence de presse. Après une entrevue à l'Élysée, Emmanuel Macron et le chef de l'OTAN, Marc Rutte, ont rappelé les objectifs de la France et de l'OTAN, et en premier lieu le soutien à l'Ukraine. Et puis Emmanuel Macron ne sera pas tout seul à assister au match opposant la France à Israël au Stade de France ce jeudi. Michel Barnier et Nicolas Sarkozy seront également dans les tribunes. On le rappelle, ce match à haut risque mobilisera 4000 policiers et gendarmes. Coup d'envoi 20h45. Et puis malgré les recommandations des autorités israéliennes, entre 100 et 150 supporters israéliens seront présents.
Merci Charlène, on vous retrouve à 16h pour le journal. Restez avec nous pour la deuxième partie de cette émission, le Annabelle Show. Je suis avec Esteban, alias David Boring, le chanteur américain crooner des Naïve New Beaters.
Radio J.
Chaque matin à 7h40, vous retrouvez nos humoristes sur Radio J. Et si vous les retrouviez sur scène, le Radio J Comedy Club. Rendez-vous le mardi 12 novembre à 20h au Palais des Glaces, avec la participation exceptionnelle de Philippe Lelouch et Sandrine Saroche. Réservation sur le site radioj.fr ou sur nos réseaux sociaux. Mardi 12 novembre à 20h au Palais des Glaces.
Radio J Comedy Club au Palais des Glaces, avec le concours du Magen David Adom, mda-france.org.
MDA.
MDA France.
Association au service de la vie.
Salut les amis, c'est Kenji. On se retrouve bientôt au Théâtre de la Madeleine à Paris, bien sûr, pour faire la fête ensemble. À très bientôt.
Mais je la joue cool, cool, cool.
Concert exceptionnel.
Le 2 décembre, le Magen David Adom vous convie à son grand gala au Théâtre de la Madeleine pour un concert exclusif de Kenji Girac.
Place limitée.
Info et réservation mda-france.org ou 01 43 87 49 02. Cool.
Participez à l'action don de la Tzedaka FSJU les 17, 18 et 19 novembre. Rejoignez-nous pour 72 heures de mobilisation intense.
Aux côtés de nos parrains Éric Toledano et Olivier Nakache, de nos ambassadeurs et militants, vous aussi, participez à cet élan de solidarité. Chaque don compte.
Unissons-nous pour faire la différence.
Les 17, 18 et 19 novembre, rendez-vous sur actiondon.fsju.org.
actiondon.fsju.org.
Radio J, 15h, 16h, le late show de l'après-midi, Annabelle Show.
Bonjour, bienvenue sur Radio J, si vous nous rejoignez, nous sommes dans le Annabelle Show avec le pétillant, le coloré, le survitaminé, David Boring des Naïve New Beaters.
Oui, c'est moi, merci de me recevoir en ce show.
En ce show, on a un expert du show, donc ça tombe bien, on est entre deux bonnes mains.
Non mais j'aime bien, il y a une petite déco ici, sympa.
Il y a une petite déco.
Je sais que c'est toi qui as ramené la déco de façon éphémère, juste pour le Annabelle Show.
Et effectivement, le Annabelle Show, c'est aussi le show à l'américaine avec le budget à la française. Bon, même la Made in China, je dirais. Mais
pour les auditeurs qui ne voient pas, il y a du doré, il y a du bling-bling, il y a de l'ananas, il y a de la couleur. Il se passe un truc dans le studio.
Il se passe un truc de ouf. J'ai envie de jouer un peu avec vous, mon cher.
Un game.
Un petit game, parce que vous avez l'habitude d'écrire, forcément, puisque vous êtes le chanteur, auteur des Naïve New Beaters. Alors, vous écrivez plus en anglais, mais bon, vous avez l'habitude de jouer avec les mots des autres aussi, hein, comme comédien. Je vais vous proposer, je vous donne trois mots.
Oh là là.
Vous m'en donnez trois.
Ouais.
Et il faudra les caser pendant cette émission.
Ça s'appelle comment ce jeu? Il n'a pas
ça
de nom.
Ça s'appelle le casse-moi-ce-mot. Okay. Et quand vous le casez, vous entendez ce petit jingle. Alors, je vous mets sur un registre. Comme Futurum.
Ok.
On va être sur Peplum. Peplum ou Peplum, hein, vous me le dites comme vous voulez.
Alors, je l'ai déjà utilisé. Est-ce que ça compte que déjà j'ai coché ma case?
Faudra le redire, c'est pas grave.
Ok.
Capharnaüm.
Ouais.
Et Aquarium.
Ouais. Ok, pas mal.
Pas mal. Je vous donne ce petit papier pour vous en souvenir.
Oui, c'est vrai.
À vous de me coller trois mots.
Oui, genre, je peux pas le dire tout de suite parce que non.
Si, il faut qu'il soit à peu près bien amené, quoi.
D'accord. Oui, mais si je le dis tout de suite, ça va faire un petit peu Capharnaüm, quoi.
Ouais, c'est bon.
Oh non, mais c'est trop facile.
Je valide. J'en ai déjà eu qui me les ont casés comme ça, tous d'affilée, mais bon. Et moi, qu'est-ce que vous me
refourriez? Non, mais ça, ils vous laissent débarrasser du jeu.
C'est vrai. Et vous me donnez quoi, du coup? Quels trois mots?
C'est un jeu, il y a une réciprocité.
Bien sûr, il y a un échange, comme un artiste et son public, quoi.
Je dirais Idoine.
Idoine.
Qui est propre à quelque chose.
Tout à fait.
Je dirais.
Si. Alors attends, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Je dirais. Rustre.
Vous allez me les chercher loin. Et ça,
j'essaye.
Ouais, vous allez me chercher dans une autre époque ou dans une autre contrée, quoi.
Et je dirais usité.
Usité, très bien. Allez, c'est parti. Bon, mon cher ami, comme je l'ai dit...
Ah, il est sympa ce jeu. Moi qui n'aime pas les jeux, je commence à bien aimer.
Ah, vous n'aimez pas les jeux? Avec tout ce que...
J'aime bien, mais c'est vrai qu'au final, je réalise que, par exemple, les jeux vidéo, je me lasse assez vite, ou je suis mauvais joueur, donc j'arrête vite de jouer. Je suis là, c'est nul.
Ouais, vous n'aimez pas les trucs usités, quoi.
Non, trop facile.
Je la recaserai.
Ah ouais, ok, d'accord.
Ah, c'est un juge difficile en plus, hein.
Non, mais je sais pas.
Pourtant, il me semblait idoine à ce moment-là.
Oh non. Ah ouais, non, mais ça, c'est parce que vous maîtrisez bien le jeu, hein.
Non, pas ces mots-là, j'avoue. Idoine, c'est vraiment, il fait vraiment pas partie de mon registre, mais bon. Je crois qu'il fait pas mal partie du vôtre. Je crois que vous avez eu besoin pour un rôle, non, de connaître pas mal de mots de vocabulaire. Je sais plus quel rôle c'était, mais.
Ah oui, c'est vrai, peut-être dans Benoît Chénan, officiel.
Qui connaît plein de choses sur.
Ouais, le mec, il a des savoirs qui servent vraiment pas à grand-chose. Par exemple, il connaît le mode d'emploi d'un four encastrable, mais vraiment tous les termes techniques. Comme le lèche-frites.
Oui, ça peut toujours servir dans une conversation, dans un dîner.
Je savais pas que les lèche-frites, ça existait.
Et ben maintenant, nous le savons. Comme tout invité que j'ai l'honneur de recevoir, j'ai envie de vous accueillir comme il se doit.
tapis rouge.
Alors vous pouvez intervenir pendant ce tapis rouge.
Ok, là c'est un autre jeu, c'est le jeu du tapis rouge.
C'est pas un jeu, c'est une rubrique. Si mes commentaires sont faux ou je donne des fake news, oui. N'hésitez pas à appuyer sur le buzzer.
Ah, mais moi aussi j'ai un buzzer, ouais. Je m'en étais même pas rendu compte.
Effectivement, donc.
Quel cafarnaum. Ah non, je l'ai déjà utilisé.
Ouais, vous pouvez me les recaser, c'est pas grave. C'est des mots sympas. Ça note plein de points au Scrabble d'ailleurs. Donc c'est parti.
Je crois surtout qu'il faut essayer de faire rire, non pas en cherchant.
Est-ce que vous reconnaissez cette musique ? Fin des années 70, début des années 80. On sait pas très bien. C'est la musique des Goonies. Le mystère plane sur le jour où naît le petit Michael, métissé, maman d'origine vietnamienne et papa d'origine judéo-marocaine, grand-père paternel d'origine rabbinique. Isaac Bensoussan ?
Oui,
c'est vrai ou c'est une
en fait, je suis tombé de haut parce que récemment, un cousin, le cousin Charlie, alors que moi j'ai grandi dans le truc de genre ouais, mon grand-père était rabbin et tout, c'était un peu un truc genre c'était même mon père il me le disait.
C'était une légende.
Ouais, voilà, c'était le gros truc, c'était genre mon arrière-grand-père il était cow-boy. Enfin, cowboy du Maroc ou d'Algérie, voilà. Quoi. Mais quand même cowboy, quoi.
Autrement là-bas, mais.
Mais voilà, c'est quand même un cowboy. Et le grand-père rabbin, quoi. Et récemment, on m'a dit, ouais, bon, attends, c'était la légende qui était rabbin. Il était quand même, genre, c'était un grand religieux, genre, il s'y connaissait grave, machin. Mais bon, de là à dire que c'est un rabbin, pas vraiment officiel, quoi. Ça veut dire quoi, pas officiel? Bah, je sais pas, c'est pas vraiment.
C'était un rabbin de contrefaçon. Mais comme on n'est pas sûr.
Voilà, j'ai pas envie de dire c'était une imitation rabbin, mais bon, c'est un grand religieux quand même, genre quasi-rabbin.
Voilà, donc il aurait fallu que quelqu'un reprenne ses offices et les mette en DVD pour qu'on soit sûr que ce soit un rabbin.
Voilà,
comme
on peut pas vérifier.
Comme on a fait pour votre papa.
Voilà.
Donc je répète
mais
d'ailleurs.
Mais je crois que c'était juste pour justifier qu'il était un peu.
Hors norme.
Bigame. Parce qu'il pouvait pas avoir ses enfants avec sa première femme.
Ah
oui, et du coup, en fait, il habitait avec ses deux femmes. Et moi, ma grand-mère, la mère
c'était
de mon père.
C'était pas lui le cow-boy plutôt.
Et c'était.
Alors, dites-moi ça.
C'était la plus jeune.
Ah d'accord.
Ouais, mamie fortunée quoi.
Ah oui, donc on avait.
Mais du coup, on disait oui, mais il a le droit d'être bigame parce que il était rabbin. Mais je me dis, mais maintenant, vu qu'on m'a dit qu'il était pas vraiment vraiment rabbin, est-ce qu'il avait le droit? Bon, et ça, personne n'a voulu répondre à ma question.
Donc,
voilà, je ne salirai pas son image.
Donc, papy
je crois que
c'est
un rabbin bigame. Voilà.
Avait deux femmes.
Voilà,
fortunée
une. Voilà, et la première avec qui il s'était marié.
Ah, ok.
Mais avec qui il ne pouvait pas avoir d'enfant.
Donc, il a fait comme Abraham avec. Les patriarches, Sarah, qui a pris une autre femme. Bon, bref, on ne va pas
voilà,
faire un tour
mais
de
il s'est fait circoncire un petit peu avant qu'Abraham.
Donc, effectivement, alors, on va dire que papy était quasi rabbin. Papa est un clown, dans le sens noble du terme. Hein. Il aime faire rire en écrivant, en jouant, en réalisant. Ce n'est autre donc que Philippe Clair, le réalisateur des grands classiques de la comédie, comme on l'a dit.
C'est vrai, on l'a dit.
D'ailleurs, on va l'écouter.
Bon, moi, je sais pas pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raconté l'histoire de ma femme qui m'avait quitté, qui s'était sauvée avec la gosse, avec un milliardaire américain. Donc j'ai écrit et mon fils jouait le rôle de. Alors lui il a eu des critiques, on disait c'est Depardieu à 10 ans, il est génial. La preuve c'est que maintenant il casse tout sur scène. C'est, comme ils disent, il faut le voir en live, parce que c'est. Il est fou, quoi, mais il a vraiment. Mais déjà, il était un comédien formidable, formidable. Et l'histoire est très très belle et elle se passait dans des décors, mais dans des décors d'ailleurs.
Donc, ce n'est autre que la voix de votre papa, hein,
ouais, c'est vrai.
Qui raconte votre histoire, du coup, que
je suis bien, quoi. Genre, il est fier,
c'est,
quoi.
C'est émouvant quand même d'avoir ces mots-là de son père, qui était réalisateur et lui-même acteur, et donc il y a eu.
Ouais, mais émouvant, je sais pas. Enfin, si, bah, déjà, ça me fait toujours quelque chose de l'écouter. Mais j'avoue que quand il disait ça, bah, souvent j'étais là dans la pièce et j'étais hyper gêné, quoi. Et là, ça m'a un peu refait la même sensation de ah, vas-y, arrête, papa, c'est bon.
C'est mignon. En tout cas.
Mais en même temps, je le regrette pas, pardon de vous couper, mais c'est vrai qu'il m'a toujours un peu poussé dans ce truc de waouh, t'es trop fort, waouh, tu casses la baraque, tout ça. Donc, du coup, à force qu'on te le dise, et ben, limite, tu t'en convaincs, et puis, au final, ben, ça te pousse, Et son mot préféré, c'était l'enthousiasme. Et il a toujours été hyper enthousiaste, à la fois sur la vie, sur moi, sur tout, enfin, sur tout ce qui arrive. Donc, ça met un peu, voilà, ça met la pêche de, sur un peu tout, quoi.
Mais c'est extraordinaire comme ça d'avoir un papa, justement, vous savez quoi que vous, parce que souvent, des fois, dans les histoires d'artistes, c'est souvent l'inverse. On a des gens dont les parents voient pas ça forcément d'un bon œil.
C'était ma mère qui voulait que je sois banquier. Elle était là, non, mais arrête, vas-y, fais de la banque, ça c'est
comme,
cool.
Fais pas comme ton père.
Ouais, ouais. Mais mon père est toujours à fond, et puis quoi que je fasse, c'était.
Donc il a cru en vous vraiment très très tôt.
Non, d'ailleurs c'est assez bizarre parce qu'il m'a toujours dit bon, je sais que t'es très très doué, mais s'il y a bien un truc que je sais que tu feras jamais carrière, c'est la chanson tellement tu chantes faux.
C'est pas
ouais
vrai.
Ouais, et donc du coup c'est peut-être aussi pour lui prouver le contraire que je me suis dit ah bah tu vas voir que je vais te donner tort.
C'est un défi perso.
Ouais, voilà, c'est un peu le combat qu'on a tous, dire non mais t'inquiète, c'est moi qui ai raison.
Ouais. Et d'ailleurs il vous en a parlé justement de cette chanson, parce que je pense que quand il dit qu'il vous trouve formidable, il parle aussi peut-être de ça, non?
Ah non, il parle surtout de ça, parce que franchement c'était le premier fan Naïve Nubiteur, c'est-à-dire on faisait des concerts et lui il portait le matos, c'était notre Roddy quoi, limite il restait avec nous à l'after du concert, je voyais à 2h du mat, il était encore en train de dire ouais vous avez vu hein, mon fils il est trop fort, vas-y je te donne un coup de main, je porte, non t'as mal au dos papa, non mais c'est bon vas-y je vous ramène en voiture,
littéralement
ah, il était à fond j'ai toujours cette image de lui. On faisait beaucoup de concerts à la Flèche d'Or, je crois qu'on a fait 14 concerts à la Flèche d'Or qui était un spot hyper cool pour les jeunes groupes qui commençaient. Et puis j'ai toujours cette image de lui qui était limite pour mieux nous voir, enfin me voir surtout, enfin nous voir quand même parce qu'il avait un côté corporate. Et ben il posait ses fesses sur le bar, carrément il était sur le comptoir et il matait le concert assis sur le comptoir. Donc voilà,
c'est
un peu...
C'est trop mignon, c'était votre premier grand fan.
Ah oui, non mais c'était presque gênant hein, quand même, parce qu'on se le tapait à tous les concerts. Hein.
Il se manifestait beaucoup, il était...
Ouais, il était là, donc je le voyais tout le temps. Et,
en tout cas,
et
il
puis,
était dans votre champ de vision.
Ouais, il était tout...
C'est vrai donc, que ça peut être déstabilisant.
Bah oui, c'est déstabilisant parce que je le vois, il sourit et comme ça, et il applaudit. voilà, il danse pas trop parce qu'il aimait pas du tout danser. Donc du coup, c'est quand même un fan qui est là, mais qui est statique. Donc ça peut être un peu flippant pour certains.
Il ressemblait peut-être pas aux autres fans dans la salle, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc...
parce que votre papa avait énormément d'énergie, il devait avoir quand même déjà. Vous avez une grosse différence d'âge.
Ouais. Donc, mais quand même malgré son âge, il avait la pêche, mais pas dans la danse. Là, c'était vraiment de la danse hyper statique, quoi. Il dansait peut-être avec sa bouche, et il rigolait comme ça, mais c'était un peu gênant quand même.
Il murmurait.
Mais quand même, c'était cool de l'avoir. C'est un peu la tour de contrôle. On savait que s'il était là c'était... et qu'il restait, c'est qu'il était en train de kiffer, quoi.
C'est qu'on passait une bonne soirée pour le public.
Ouais, globalement.
C'était l'indicateur du public lambda, en fait.
Ouais, voilà.
Effectivement, il y connaissait quelque chose. Hein. Bon, c'est vrai que du coup, assez tôt, il vous partage quand même sa passion, en grand, voire en très très grand, avec des affiches en 4x3 dans la maison. Dans votre chambre même.
Pas dans la maison, ouais, c'était dans ma chambre. J'avais même pas choisi, et d'ailleurs je savais
c'était
même pas que...
C'était votre papier peint un peu.
Oui, je savais même pas que les enfants, ils avaient le droit de choisir la déco, quoi. Pour moi, c'était un peu obligatoire d'avoir une déco avec...
Avec Aldo Macho
ouais,
et
voilà,
votre
ouais.
Papa.
Donc j'étais là, bon, c'est sympa, parce qu'elles étaient plutôt colorées, ces affiches, et puis... Les affichistes, à l'époque, les affichistes, c'était quand même des vrais artistes, en fait. On faisait appel, c'était des peintres assez hallucinants, hyper réalistes. Donc, je trouve les compositions d'affiches étaient peut-être un peu plus folles que maintenant. Et donc, du coup, bon, c'était un peu limite des œuvres d'art, quoi. Mais bon, c'était que les œuvres d'art des films de mon père, quoi.
Et c'est vrai qu'on y revient un peu à ces effets, des fois, d'affiches, parce que ça avait quelque chose de très esthétique,
qui
se marquait
titres,
dans le temps.
Ils étaient complètement fous.
Mais d'ailleurs, les titres, c'était précurseur du café-théâtre. C'est ce genre de titre dingue,
même,
comme ça.
Ouais, puis même, il y avait les typos qu'on utilisait pour les titres de films, les affiches, elles étaient limite, je sais pas, dans les années 70, ça faisait limite psychédélique. Enfin, il y a eu plein d'expérimentations, quoi, dans l'affiche.
C'est vrai qu'il y avait une grande liberté à ce moment-là.
Ouais, puis il y avait beaucoup d'affiches dessinées, tout ça. Donc, bon, au final. Bon, j'ai grandi avec ça, donc j'avais pas vraiment le choix, mais je trouvais ça plutôt cool, quoi. Et je repense beaucoup à l'affiche de Rodriguez au pays des merguez, qui est hyper joyeuse et que limite moi-même j'ai racheté en énorme. Je crois elle fait 2 mètres par 1 mètre 50 et bon voilà, elle est chez moi dans donc la cuisine.
J'allais vous demander, mais du coup vous avez changé de déco, mais non.
Non, mais du coup voilà, je me dis bon bah carrément ça a tellement influencé sur moi que voilà, maintenant j'en ai besoin de cette affiche. Et d'ailleurs c'est même drôle parce qu'une fois j'ai passé un casting pour un film et elle était en grand aussi dans le bureau de la prod du casting, et le mec m'a dit le mec qui avait ce bureau m'a dit ah, j'ai jamais vu le film, mais bon, l'affiche me faisait marrer, quoi. C'est ouais j'ai eu le rôle.
Ah bah voilà, ça vous a suivi.
Mais en même temps j'ai eu le rôle, mais c'est un rôle pour être bon, pardon, je pars en digression, mais
grave,
c'était dans une série pour Canal qui s'appelait Paris etc. de Zabou Bretman, et en fait c'était une série qui avait été écrite avant par Maïwenn, mais Zabou Bretman l'avait récupérée et je passais le casting pour jouer le rôle de David Boring.
Ah oui,
parce que Maïwenn l'avait écrit pour David Boring, mais en fait Zabou Bretman, elle savait pas du tout.
Ah d'accord.
Que moi-même drôle. Esteban, j'étais David Boring. Et puis à un moment elle me dit tiens, lis-moi ce texte, c'est pour le casting machin. Et puis là je commence à lire un texte qui parlait de que c'est un luxe de s'ennuyer, enfin bon bref. Et puis je me dis bah tiens, mais je connais ces tourneurs de phrases. Et puis
ça
me dit ouais, moi j'ai récupéré une interview du chanteur David Boring. Et je fais mais c'est moi David Boring.
C'est trop drôle.
Et du coup, passais le casting pour jouer.
Heureusement, vous avez été pris.
Mais ouais, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, s'il te plaît, me vire pas du casting parce que ça voudrait dire que j'arrive moi-même pas du tout à m'imiter, que je suis devenu une parodie de moi-même. Ouais. Enfin, je me suis dit, non, mais c'est obligé que j'ai le casting. Là, c'est même pas un casting. C'est juste
des
petits essais pour se dire, on confirme. Mais il n'y a pas moyen.
Vous étiez idoine pour le rôle.
Oh là là.
Quand même.
Bien sûr.
Là, oui, voilà. Là, on peut, là. Effectivement, mais c'est vrai que c'est un peu comme ces concours de fans ou de sosies où s'amusent à venir les vraies personnalités.
Mais oui, et puis en plus, je passais le casting dans cette salle où il y avait l'affiche de mon père. Donc j'étais là, non, mais il y a un truc complètement bizarre là, c'est pas possible, quoi.
Effectivement, il manquait plus qu'elle écoute les Naïve New Beaters à la radio et là c'était
encore. Ouais, non mais.
Bon, comme quoi, des fois c'est quand même écrit. Et effectivement, donc, bah, pour revenir sur votre papa.
Oui, c'est vrai.
C'était le roi de la comédie culte, donc, et du burlesque. Et vous avez dit vous-même, c'est un peu disparu ce format-là. On va l'écouter, justement.
Je crois surtout qu'il faut essayer de faire rire, non pas en cherchant à faire rire, mais je crois qu'on fait rire surtout par la spontanéité. Les gags, je les trouve, en tout cas, comme ça, dans la rue, comme ça, tout de suite, c'est une idée. C'est toujours, si vous voulez, la logique dans l'absurde. Je trouve qu'il faut... Je n'ai pas peur d'aller au bout des choses. Et bien souvent, d'ailleurs, me reproche peut-être d'aller un peu trop loin. Mais je n'ai pas peur du gros gag, c'est-à-dire du gag où vraiment on éclate de rire.
Alors, ce qui est drôle dans l'extrait qu'on...
Ouais, là, c'est pas mon père qui parlait.
Eh ben, si.
Ouais, je crois la voix elle est pitchée, ou elle alors est... non, peut-être, a... peut-être il faisait un peu un truc.
Ouais, mais, c'est... mais on voit des extraits à l'ancienne.
Ah oui, c'est un. Ah oui, c'est sa voix des années 60.
Voilà, c'est ça.
Ah oui, oui,
ouais, non, ouais, c'est vrai, en noir et blanc. Hein, donc,
Oui, non, mais parfois je suis tombé sur des vidéos de lui à l'INA. Et
vous le reconnaissez même pas.
Non, mais c'est sa voix, ouais. Et je me dis, ah, mais c'est bizarre quand on regarde des vieux films, on a l'impression que les gens ils parlent tous un peu bizarrement. Et en fait, c'est vrai que...
C'était un style à l'époque.
Oui, voilà. Et puis, il essayait, je crois, pas mal de gommer son accent pied-noir. Donc là, c'est vraiment le paroxysme du gommage d'accent. Et du coup, on le reconnaît pas du tout.
Alors, ce qui est assez drôle dans...
Mais en fait, c'est dans des petits sons un peu gutturaux.
Oui, que ça revient. Ouais. Oui, voilà. C'est un peu ce qui trahit souvent les
accents.
C'est
vrai qu'il y a un peu une sonorisation aquarium.
Oh, joli.
Mais c'est vrai que je le reconnais dans les sous dans les je reconnais parce que je reconnais ma voix là-dedans, mais il y a un truc hyper
vous-même
bizarre.
D'ailleurs vous jouez pas mal de votre voix, que ce soit en chanson, en jeu ou...
Ouais, mais là j'hallucine à quel point il a commis son accent bien noir.
D'ailleurs il y a un passage assez culte où on le voit jouer le Cid,
ouais.
Le Cid avec Enrico Macias. Alors, juste pour revenir sur sur donc le cinéma de votre papa, un de ses premiers films, donc c'est Des clics et des claques.
Ouais.
Et où il raconte.
C'est celui-là que j'ai racheté.
Ah. Parce que.
J'adore.
Parce qu'en fait c'est assez culte, parce qu'en plus comme je le disais précédemment, c'est précurseur de La vérité si je mens, où on retrouve comme ça un groupe de potes qui est confronté, enfin voilà, un pied noir, etc., qui est confronté à la bourgeoisie, je dirais.
Ouais, ouais, carrément. Mais même l'affiche, c'est quatre mecs en costard à la plage. Enfin, il y a un vrai truc de.
À Deauville. C'est une vraie référence, quoi, en tout cas, effectivement. Et donc, pour revenir sur vos débuts au cinéma, donc vous les faites avec votre papa. Et alors c'est drôle parce que vous avez dit que vous avez passé un casting pour jouer votre propre rôle, et là vous avez un peu aussi joué votre propre rôle dans un de ces films, donc dans ce film L'aventure extraordinaire d'un papa ordinaire, avec Aldo Machon. Alors vous êtes un des seuls enfants à avoir mordu Aldo Machon dans le premier film et Jerry Lewis dans le deuxième. On peut en savoir plus sur cette histoire?
Ouais, c'est vrai, je crois que c'est mon père qui voyait en moi un mordeur. Et donc c'est vrai,
c'est pas un peu rustre de faire ça.
Et en fait dans Plus beau que moi tu meurs, du coup je mords le doigt d'Aldo Machon, et dans Par où t'es rentré on t'a pas vu sortir, je mords les fesses de Jerry Lewis. Alors je me dis que peut-être il trouvait que je jouais tellement mal qu'il fallait pas me faire prononcer une phrase, mais qu'il fallait me faire mordre quelqu'un.
Bon, heureusement pour vous, aujourd'hui vous prononcez bien des phrases.
Ouais, ça va, j'arrive mieux à prononcer.
Et donc, là, avant ça, vous étiez Michael Clerc. Et au cinéma, eh bien, vous devenez, quelques années plus tard, vous tentez votre chance et vous serez donc Esteban. Je peux pas m'en empêcher, bien sûr. Ça a à voir à faire.
Bah oui, c'est hésité dehors.
D'ailleurs, votre papa dit que dans ce film, vous jouiez avec Aldo Machon, ça se passe dans les décors d'un Indien dans la ville. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film un peu culte aussi.
Bon, ouais, mais même il est sorti après.
Ouais. Effectivement, bah c'est pareil. Je pense que ça devait être une référence aussi.
Les deux films sont assez similaires. Ouais.
Donc, effectivement, donc vous êtes la plupart du temps fidèle au registre de votre père, hein, parce qu'on fait assez confiance dans la comédie, quand même.
C'est vrai.
On aime bien vous faire jouer le rôle du fou attendrissant du village. C'est comme ça que vous le déterminez, il me semble.
Oui, du mec un peu bizarre, quoi.
le weirdo, comme on dirait.
Ouais, ma mère, elle me dit, ah, tu joues Lulu Berlu.
Lulu Berlu, c'est mignon. Ah, j'aurais pu vous le caser, celui-là, comme mot. <C'est vrai. rire> Effectivement. Et donc, vous enchaînez les fictions en télé, court-métrage, long-métrage. Vous jouez, entre autres, avec beaucoup de réalisateurs. Rémi Besançon, Jérôme Commandeur, Yolande Moreau, Alexandra Leclerc, donc, avec qu'on retrouve.
Les boules de Noël, voilà. Le 27 novembre, bien sûr.
Voilà. Et pour vous, donc, c'est vrai que le caractère du réalisateur, ça se reflète assez dans l'ambiance qu'il va apporter au tournage. Il y a des gens comme ça avec qui vous avez plaisir à tourner, que justement vous avez, Alexandra Leclerc, vous avez déjà joué avec elle, il me semble.
Ouais, mais justement, je trouve que là, ça se ressent, et en fait, on met aussi un peu dans l'ambiance de tournage, un peu l'ambiance aussi du film. C'est vrai qu'Alexandra Leclerc, je l'avais connue sur Mes très chers enfants. Et là, je l'ai trouvé hyper cool parce que c'est Mes très chers enfants. Et elle est toujours aussi cool, mais dans Les boules de Noël, il y avait un côté plus... on est dans le mood. Et puis, d'ailleurs, le tournage se passait quand même un petit peu...
À huis clos.
Ouais, une sorte de vase clos. D'ailleurs, c'est un film de Noël qu'on a tourné en plein mois de juillet. Mais on était dans cette grande maison, et puis en fait c'était une sorte de repas de Noël qui a duré un mois et demi, quoi. Il y avait ce côté, elle était toujours aussi cool et aussi fun, Alexandra, mais elle avait ce côté un peu tendu des fêtes de Noël.
C'était
un peu
peut-être
plus
pour vous mettre
c'était assez intense, quoi. On se faisait un peu plus engueuler, mais tout en restant ce côté une convivialité agressive, quoi. On est là pour s'amuser quand même, quoi.
Effectivement. Donc, je rappelle, le 27 novembre, on vous retrouve donc dans Les boules de Noël. Voilà. Je pense que ça va devenir culte, vu déjà les premières images. Donc, on a hâte de rire avec vous là-dessus, dans cette urgence. Le 26 novembre, si vous n'avez toujours pas pris vos places, Naïve New Beaters.
Ouais, s'il vous plaît,
prenez vos places, amenez votre famille, venez passer un moment délirant et musical à l'Olympia avec les Naïve New Beaters et leur album.
Une kermesse punk.
Ah oui, alors ça, ça donne tout de suite envie de voilà, foncer sur vos billets. Et demain sort le clip de Such a Waste.
Oui, donc, véritable péplum vidéaste.
Bravo, bravo, jusqu'au bout. Effectivement, donc on revient dans quelques instants avec Esteban, alias David Boring, des Naive New Beaters.
Oh là là, génial.
Pour la dernière partie de cette émission, il y a encore plein de choses à se dire.
La dernière partie du show, ouais, carrément.
Effectivement. Sur Radio J, à tout de suite.
Radio J Comedy Club, mardi 12 novembre à 20h, les humoristes de Radio J seront sur la scène du Palais des Glaces pour une soirée unique. Radio J Comedy Club. Nicolas Raffal, Kevin Derblum, Meryl Pénélope, Myriam Barouk, Annabelle Nakache, Nina Azoulay et la participation exceptionnelle de Philippe Lelouch et Sandrine Saroche. Réservation radioj.fr. Rendez-vous mardi 12 novembre à 20h au Palais des Glaces avec Radio J Comedy Club.
Radio J Comedy Club.
Radio J Comedy Club au Palais des Glaces avec le concours du Maguen David Adom, mda-france.org.
MDA.
MDA France.
Association au service de la vie.
Jusqu'au 25 novembre, participez à la loterie solidaire du CASIP et tentez de remporter des lots prestigieux. Vous rêvez d'un SUV Peugeot 2008, d'un collier Messica, d'une montre Hermès, de billets pour un match de foot de la Ligue 1, d'une console de jeu, de billets d'avion? Il y a plus de 45 lots à gagner et à découvrir sur le site du CASIP. Chaque billet acheté contribue